n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Alors Clément, merci de me faire bugger. Rappelle-moi de plus jamais te laisser faire un jingle.
Quoi ? Qu'est-ce que tu as contre les petits chats ? C'est dans le thème de l'émission, non ?
Ah non, mais t'es pas DJ, ça c'est bon.
Salope.
Hashtag c'est que de l'amour. Allez, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Clément et moi-même vous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de Transhistorien et en direct.
Effectivement, Marie. Et aujourd'hui, nous remettons les pendules à l'heure. Nous allons vous parler du Moyen-Âge occidental et des procès d'animaux. Je t'avais dit que ce générique était dans le thème. Alors on pense par exemple au chat noir brûlé pour avoir fait Shabbat avec des sorcières, mais au-delà des anecdotes et des clichés, que sait-on vraiment des procès d'animaux ?
On raconte des tas de légendes et d'histoires à dormir debout sur Robin des Bois, toutes différentes d'ailleurs. Eh bien, nous autres, au royaume des animaux, nous avons notre version. Voilà ce qui est réellement arrivé dans la forêt de Sherwood.
Alors, chers auditeurs et chères auditrices, je vous propose dans un premier temps de partir de la version Disney de Robin des Bois, dont nous venons d'entendre le générique. Alors, vous savez peut-être, et sinon, sachez que je vous juge très sévèrement, que les personnages du dessin animé sont tous des animaux anthropomorphisés. Et en fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les studios Disney n'ont pas trop fait n'importe quoi. Alors avant même de parler de procès, il faut savoir que les hommes du Moyen-Âge ont des jugements sur les animaux. Enfin, les hommes du Moyen-Âge qui nous ont laissé des écrits, en tout cas. Les animaux sont très représentés dans les enlumineurs, par exemple, dans la sculpture. Ils sont l'objet d'un genre littéraire, les bestiaires, dans lesquels il s'agit de regrouper des fables ou des moralités sur les bêtes, qu'elles soient réelles ou imaginaires.
Et Marie, quels sont les animaux qui font le plus parler d'eux ?
Alors, nyahaha, je vais commencer par les animaux maléfiques. Évidemment, les serpents, comme persifleurs dans Robin des Bois, ont mauvaise presse. Bien sûr, c'est le serpent qui a tenté Ève dans la Bible, tout ça, tout ça. De même, si Robin des Bois et Belle Marianne, qui est un peu cruche, soit dit en passant, sont de gentils renards, au Moyen-Âge, le renard est beaucoup plus subversif. Il incarne la ruse et la perfidie, comme le goupil renard dans le roman du même nom.
Hashtag Maria Goupil.
Ah oui. Son pelage roux, donc flamboyant, suffit à le ranger dans le cortège du diable, aux côtés du lynx, ou de ce que nous considérons comme de mignons écureuils. Alors, le coq, qui est le chanteur, le troubadour dans Robin des Bois, est lui aussi ambivalent au Moyen-Âge. Et ce, depuis les premiers siècles du christianisme. Il était vu comme l'incarnation du Christ, annonçant le renouveau du jour de la foi.
Ah ouais, rien que ça.
Voilà, c'est pour ça qu'il est aussi présent dans l'art roman. En gros, le coq, il est badass, il impose son style. Mais en même temps, à mesure que les siècles passent, sa réputation se dégrade. Tel le bélier, tel le papa mouflon revêtu de sa casquette métallique, il devient symbole de luxure et d'agressivité. Pauvre coq. Parfois, il y a aussi un décalage entre la perception savante et la perception populaire. Je prends l'exemple de la chauve-souris. La croyance populaire dit de s'en méfier, mais Hildegard de Bingen, au XIIe siècle, la considère comme un oiseau nocturne et suggère, en cas de jaunisse, de capturer une chauve-souris, de l'embrocher vivante, de l'attacher au ventre du malade jusqu'à guérison complète et mort de l'animal, du coup. Oui, tout ceci n'est pas très vegan, ni très Charlie, mais l'idée sous-jacente, c'est que la chauve-souris va attirer à elle la maladie et donc permettre la guérison.
Et à tout seigneur, tout honneur, Marie, tu vas quand même bien nous parler un petit peu du lion.
Bien sûr. Le lion reçoit un jugement très positif pendant tout le Moyen-Âge. Avec l'aigle, c'est l'animal le plus représenté sur les blasons. Exemple pris tout à fait, mais vraiment tout à fait au hasard, le drapeau de la Normandie.
Oui, tout à fait au hasard,
tout à
je
fait
confirme.
Au hasard. Deux lions couchés, deux lions d'or couchés sur fond rouge. Enfin, des lions couchés en héraldique, on appelle ça des léopards. Cherchez pas à comprendre. Le lion est aussi représenté en rage, comme on dit. Vous voyez le logo de Peugeot ? Eh ben, c'est ça. Un lion dressé, la gueule ouverte, la crinière hérissée, la langue tirée. Le lion est un warrior, le lion c'est le roi des animaux.
C'est moi Simba, c'est moi le roi.
Mais pas le prince Jean, qui d'ailleurs, dans le dessin animé, n'a même pas de crinière. Disney et les méchants efféminés, une grande histoire d'amour, mais ceci est une autre histoire. Revenons à nos lions. À force d'être utilisés partout en Occident, par tout le monde, à force d'être mainstream, son pouvoir symbolique originel s'affaiblit en fait beaucoup au cours du Moyen-Âge.
Cela dit, des lions, on en croise assez peu dans les campagnes et villes d'Occident, à part chez les montreurs de bêtes ou dans les ménageries princières. En revanche, il y a tout un tas d'animaux qui, dans le monde médiéval, cohabitent quotidiennement avec les êtres humains et qui, parfois, finissent au tribunal.
Vous êtes de race bohème, adonnée au maléfice, et convaincu de ma commerce avec le diable, sous la forme d'une chèvre familière. Joint au procès.
Mais pourquoi dire des choses pareilles? Les diables, tu les entends, joli.
Garde, ne les laissez pas converser ensemble.
C'est le démon qui possède cette chèvre. Je veux résister à tout exorcisme. Nous nous verrons obligés de requérir contre lui le gibet ou le bûcher.
Un nom tracé sur le pavé par un animal maléfique, un homme attiré pour être tué par une sorcière venue d'Égypte, un écu changé en feuilles sèches, tout ceci est d'une grande lapidité.
Faites entrer les témoins.
Vous reconnaissez l'accusé?
C'est elle, et pas une autre. Et là, c'est son bouc qui sentait le sabbat. Oh, messieurs, ma pauvre chambre, tout en sang, la plus belle, la plus propre, tout en sang. Et puis le capitaine beau comme un grand seigneur qui baignait dedans. Et la fille tout débraillée, et le bouc qui gambadait. Je jurais qu'il riait.
Une vraie scène de sabbat, n'est-ce pas? Alors on est dans Notre-Dame de Paris, et plus précisément dans l'adaptation du roman de Victor Hugo, donc une adaptation par Jean Delannoy et des dialogues écrits par Jacques Prévert.
Thomas, si tu nous écoutes.
Et c'est une image bien connue que l'on a là, celle des procès d'animaux, une image qui nourrit notre imaginaire d'un sombre Moyen-Âge où la conscience s'est envolée très loin de nos chers humains, on connaît le refrain. Alors si on regarde dans le détail, pourtant, il est assez difficile de trouver dans nos sources beaucoup d'informations à ce sujet. Le phénomène n'apparaît qu'au XIIIe siècle à peu près, et Michel Pastoureau en repère, en France, une soixantaine entre, tenez-vous bien, 1266 et 1586.
Et sur cette soixantaine de cas, il y en a peu qui sont vraiment bien connus et documentés, et ceux que l'on consulte les archives ecclésiastiques ou celles de la justice laïque.
Alors dans les cas bien documentés, il y a par exemple la truie de Falaise en 1386.
Oh, Falaise en Normandie encore, évidemment. Comme par hasard.
Quel hasard! Alors, c'est assez cocasse, hein, vous allez voir. Après avoir dévoré un nourrisson, elle est jugée, condamnée et exécutée de manière sanglante et cruelle devant toute la population du coin.
Attends, dévorer un nourrisson et cocasse, tu gères bien l'association dans ton esprit? Comment ça se passe?
Oui, je fais une psychanalyse. On a même invité les paysans à venir assister à la sentence de la bête avec leur porc, afin que ceux-ci comprennent que manger un bébé, c'est pas très bien vu en société. L'animal est traité comme un criminel humain, et l'on va même jusqu'à le soumettre à la fameuse question.
Oui, la question d'ailleurs, chers auditeurs, c'est l'interrogatoire réalisé sous la torture au Moyen-Âge. Voilà.
Voilà, c'est donc extrêmement charmant. Il y a une chanson dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui s'appelle La Torture, mais dans l'acte 2, mais je vous laisserai la consulter par vous-même. Donc bref, la question. Et en 1457, en Bourgogne, une truie avoue ainsi, et là je cite Michel Pastoureau, avoir tué et en partie dévoré le jeune Jean Martin, âgé de 5 ans, sinistre repas qu'elle partagea avec ses 6 porcelets. Alors les théologiens médiévaux s'écharpent sur la question de la responsabilité de l'animal. Saint Thomas d'Aquin est hostile au procès d'animaux, considérant qu'ils ne peuvent distinguer le bien du mal. D'autres, en revanche, s'appuient sur la Bible, et notamment sur le livre de l'Exode, qui dit ceci. Si le bœuf a renversé un homme ou une femme et qu'ils en sont morts, le bœuf devra être lapidé. Ses chairs, en revanche, ne seront pas mangées et le propriétaire du bœuf sera considéré comme innocent.
En fait, on ne juge pas comme aujourd'hui que c'est le propriétaire qui doit être jugé. L'animal domestique est pleinement responsable de ses actes, comme si au fond il avait une volonté propre.
Exactement. Et on note que dans la plupart de nos procès médiévaux, le propriétaire est soumis à une peine très légère, une amende ou une pénitence. Rien de bien méchant ni de corporel, contrairement à ce que l'on fait subir à l'animal jugé coupable. Mais plus encore, je vous disais dans le cas de la truie de Falaise que les paysans avaient été invités à assister au supplice et à l'exécution en compagnie de leur porc, parce que cette justice a une valeur exemplaire. Dans un procès d'animal, l'accusé ne se rétracte pas. Juger l'animal comme un homme, c'est montrer que la justice s'applique à tous, et à mesure que le temps passe, c'est un moyen de responsabiliser l'homme possédant l'animal. C'est ainsi qu'on lit chez le juriste Pierre Hérault, en 1575, « Si nous voyons un pourceau pendu au gibet pour avoir mangé un enfant, c'est pour avertir les pères et mères, les nourrices, les domestiques, de ne laisser leurs enfants tout seuls et de si bien resserrer leurs animaux qu'ils ne puissent nuire ni faire mal. » Les juristes et théologiens médiévaux reconnaissent à l'animal une âme, au sens de souffle vital. Et les animaux supérieurs auraient un principe intellectif, c'est-à-dire une capacité à rêver, se souvenir, apprendre. L'animal est plus proche de l'homme au Moyen-Âge qu'il ne l'est à l'époque moderne, d'après Michel Pastoureau. Il y a tout de même une limite. Les animaux ne penseraient pas, seraient incapables d'abstraction et de spiritualité. Pourtant, on continue majoritairement de voir les animaux, qui sont partout, comme moralement responsables. Et s'il y a un animal, chers auditeurs, que l'on retrouve partout au Moyen-Âge, eh bien c'est le cochon.
Le cochon est à tel point magnanime qu'il peut paraître saint. Grâce à son cœur en or et son amour pour les siens, le cochon est un partenaire idéal dans la vie de tous les jours. Et si vous posez la question, oui, c'est bien mon signe. Hashtag je suis cochon.
Et oui Baptiste, si tu avais été cochon au Moyen-Âge, eh ben on t'aurait trouvé partout.
Oui, parce que jusqu'au XVIe siècle, c'est un animal ultra dominant en Europe occidentale. Dans les villes, on trouve même des cochons vagabonds qui servent des boueurs. Alors si le cochon est présent, c'est parce que, comme dit le dicton, tout y est bon. Il est quasiment entièrement comestible. On peut même recycler ses parties non mangeables. On peut par exemple faire de la colle avec ses os.
Oui, pas de l'alcool avec ses os, Clément.
Non, pas de l'alcool de cochon. Et puis c'est l'animal le plus proche de l'homme quand même. Puisqu'on ne peut pas disséquer d'êtres humains en vertu des interdits religieux, eh bien on dissèque des porcs. Car depuis l'Antiquité, on considère leur anatomie comme proche de celle des humains. Ce qui est d'ailleurs assez vrai, les systèmes digestifs et urinaires, la peau et les tissus sont très similaires.
À propos d'anatomie, les animaux sont aussi représentés à des fins symboliques. Petite parenthèse d'histoire de l'art, dans les enluminures et les textes, les petits animaux à fourrure sont des allégories des organes sexuels. L'écureuil s'applique au sexe féminin aussi bien qu'au sexe masculin, alors que le lapin désigne la vulve uniquement. C'est mignon, hein ? Mais j'en viens à du moins mignon, les condamnations pour bestialité. Elles sont assez difficiles à étudier, les sources sont rares car souvent elles ont été détruites. Oui, bestialité, je parle bien de zoophilie. Il est difficile de dire si les condamnations sont fondées ou non, mais elles existent. Michel Pastoureau prend l'exemple d'un angevin, Michel Morin, accusé en 1553 par sa femme d'avoir acheté une brebis pour copuler avec elle, ce qu'il aurait fait trois fois. Le domestique de la maison et l'apothicaire voisin témoignent contre lui. Michel Morin est condamné à être pendu et brûlé, et la brebis avec lui. Brrr. Sans toujours aller jusqu'au procès, l'Église condamne les rapports charnels avec des animaux et demande des expiations et pénitences. Le pénitentiel de Worms, par exemple, un guide de questions pour confesseurs composé autour de l'an 1000, suggère l'existence d'un certain nombre de pratiques. Des femmes qui ont des relations avec des bêtes de trait, qui introduisent des poissons vivants dans leur vagin, des hommes qui recouvrent leur sexe de miettes pour attirer des animaux, etc. Mais il s'agit d'un manuel religieux destiné aux confesseurs. Et qui ne dit pas si ces pratiques étaient répandues ou non.
Oui, j'ai cité un jour ce pénitentiel en cours d'histoire médiévale et on m'a regardé bizarrement. Bref, parlons plutôt des procès attentés aux animaux nuisibles. Si les loups et sangliers sont poursuivis lors des battues sur ordre des autorités temporelles, en revanche, on a de très nombreuses sources ecclésiastiques relatant des exorcismes et anathèmes prononcés contre de la vermine. En somme, les rongeurs et les insectes de quitter les champs. Voilà.
Et les peines peuvent aller jusqu'à l'excommunication. C'est vrai qu'on ne plaisante pas avec les limaces.
On prononce aussi des excommunications contre les animaux coupables de sorcellerie et d'hérésie. Chats noirs ou pas, chiens, boucs, ânes, corbeaux. Mais finalement, ces procès-là sont plus nombreux au XVIe et au XVIIe qu'au Moyen-Âge. Les époques de recrudescence de la sorcellerie et des pratiques occultes ne sont pas toujours celles que l'on croit.
Et donc encore une fois, l'obscurantisme médiéval est surtout un bon gros cliché sur une époque où surtout les animaux et les hommes cohabitaient bien davantage.
Vous êtes toujours sur Transistor, il est 15h45 et on change à nouveau d'univers. Il est maintenant temps de parler cinéma. De quel film allons-nous parler aujourd'hui dans D'étoiles plein les yeux sous la direction de Rémi ? Vous le saurez dans un instant.